invitation à nos invités. J'espère que vous en avez. Moi, si vous n'en avez pas, je vous préviens, j'en ai. Mais je pense que c'est vraiment vous qui devriez prendre la parole. Alors, peut-être simplement vous rendre au micro qui est là, qui va nous permettre de vous entendre et vous identifier puis poser votre question. Allez-y.
Oui, juste par motif de précision. Le dernier personnage qui l'a parlé semble être écarté par Moody, c'est ça? Qui est ce personnage-là?
Adwani.
Oui. C'est la personne dont Mathieu Boisvert parlait dans sa conférence, qui est une sorte de fondateur
du BJP.
Oui.
Mais c'est ça. Il a été mis de côté. Puis c'est Modi qui dirige, en fait, d'une main de fer. Je crois bien il dirige le parti.
Adwani et Bajpayee sont des anciennes générations.
Qui est déjà Bajpayee, qui était le précédent.
Qui est déjà fini. Parce qu'on ne dit pas, mais pour les technocrates jeunes, Modi a fait développement à Gujarat à cause de comme l'équipe. Advani ne faisait pas partie. Lui-même, il a fait. À cause de l'exécution, propre plan, toutes sortes de choses.
Autrement dit, le parti veut aussi changer de son image.
Oui, ça.
C'est clair.
En fait, ce qui est mis de l'avant, ce qui a été mis de l'avant tout au long de la campagne, de la dernière campagne électorale en Inde, c'est le néolibéralisme. Le développement du pays sous une plateforme semblable à celle que Modi a effectuée là-haut au Gujarat.
Moi, en tout cas, sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Indiens qui disaient. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ses idées. J'ai peur un peu de son nationalisme, mais je vais lui donner une chance cette fois-là parce que je pense que lui peut faire des choses pour changer l'Inde que l'autre ne peut pas faire. Un grand espoir, mais mêlé d'une sorte de scepticisme. Attention. Oui?
Oui, bonjour, Fanny Bussière. J'avais une question, M. Boisvert. Vous avez rapidement parlé...
Pourquoi vous n'allez pas au micro? Parce qu'on vous entendrait, tout le monde.
Monsieur Boisvert, la question est pour vous. Vous avez rapidement parlé de la différence entre le système de classe et de caste. Ici, quand on pense à l'Inde, on va tout de suite parler du système de caste. Moi, ça m'a un petit peu surprise. Les classes, vous parlez plus de la pureté, les castes au niveau professionnel. Est-ce que vous pouvez juste un peu mieux définir la différence et juste savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est fait pour concrétiser l'abolition de ces systèmes?
Oui, c'est une bonne question. Serge a mentionné que l'intouchabilité était illégale depuis 1955, mais les intouchables ne font pas partie techniquement du système de classe ou de caste, ou de classe tout au moins. Il y a quatre grandes classes, et ça, c'est une structure qui émane essentiellement de la tradition hindoue et qui est enracinée dans un mythe de fondation. Et jusqu'à quel point cette structure a une incidence dans la vie quotidienne, c'est pas clair. Ce qui est beaucoup plus probant, c'est au niveau des castes. Il y a une multitude de castes et les castes sont des corporations professionnelles. Bien entendu, cette structure, elle est présente essentiellement dans des lieux traditionnels. Plus dans les grandes villes, c'est presque plus présent. Ça se transforme à une vitesse fulgurante, là. Mais il y a des règles qui viennent à gouverner ici, qui viennent à régir le système de castes, les jati et le système de classes. Et c'est essentiellement ici l'endogamie, on se marie à l'intérieur de notre groupe, le commensalisme, on mange la nourriture qui est préparée par les membres de notre groupe ou par des groupes supérieurs, et la transmission de la profession qui est héréditaire, c'est-à-dire que le père va léguer sa profession à son fils. Alors, il faut comprendre qu'à l'intérieur de la modernité, c'est un système qui n'a plus réellement sa place et qui se transforme à une vitesse incroyable dans les villes. Parce qu'on fait face à une nouvelle réalité qui n'est pas adressée par les structures corporatives, professionnelles, traditionnelles.
Mais on trouve encore des gens en Inde qui peuvent être punis ou poursuivis ou chassés de chez eux s'ils se marient, par exemple, avec quelqu'un du nom de Kaskana.
Cette notion d'endogamie, bon, il faut faire attention ici parce que c'est une structure qui est complexe et... qui avait aussi, jusqu'à un certain point, sa raison d'être à un moment donné. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est louable, loin de là. Mais il y a des gens qui sont encore dans une vision extrêmement traditionnelle et qui interprètent tout de façon très rigide et qui ne permettent pas, justement, le mariage exogame. Okay? Mais ça, on se retrouve ici, c'est essentiellement, sans être exclusif, dans des régions qui sont plus reculées, plus rurales.
Autre question, monsieur, avancez-vous, s'il vous plaît.
Oui,
c'est bon, ça va.
Les musulmans représentent, j'ai lu votre diapositive, 13% de la population de l'Inde. Et M. Mouri, qui représente le parti BJP, comment il va essayer de trouver une solution harmonique entre les hindous et les musulmans quand il a provoqué des incidents d'Ayodhya? Il y a les musulmans radicaux qui n'ont pas oublié le massacre, les gens savent, quelques milliers. Et moi, je pense qu'il n'est pas vraiment un représentant de trouver une harmonie entre les musulmans et nous, quand même il est démocratiquement élu, comme premier ministre de l'Inde.
Je pense que les trois personnes vont avoir des points de vue là-dessus. Donc,
pensez-vous combien de musulmans ont voté pour Modi?
Non, je ne sais pas, je suis ici au Canada.
Ça sera une bonne idée de trouver. Je veux dire, est-ce que si on lit le journal de Montréal chaque jour pour les prochains 6 mois et je lis Montreal Gadget pour les prochains 6 mois, deux personnes, je vais demander qu'est-ce qui se passe au Québec? Est-ce qu'on aura la même image? C'est une question, où est-ce qu'on lit sur Modi? La Cour suprême a déjà dit non. Est-ce qu'il est déjà coupable? Il est coupable, il a fait toutes sortes de choses. Il a dit.
Là, on fait allusion pour que les gens sachent pas ce qui s'est passé dans son état au Gujarat.
Est-ce qu'il est responsable?
En 2002, il y a eu des pogroms,
des
massacres entre hindous et musulmans. Oui. Et M. Modi a été blanchi par les tribunaux, je pense.
Oui, c'était déjà.
Mais il y a un doute qui.
Oui, il y a un doute, c'est acceptable.
Parfait. Serge Granger, là-dessus, peut-être?
J'aimerais simplement dire que depuis environ une vingtaine d'années, il y a une marginalisation de plus en plus grande envers les hindous-musulmans. Autant dans le processus électoral qui n'est pas musulman-friendly, parce que c'est uninominal à un tour, donc c'est souvent les groupes majoritaires qui gagnent les élections. Il y a de moins en moins de candidats musulmans, de moins en moins de musulmans qui votent. Alors, il y a une marginalisation qui est en train de se faire. Ça ne date pas simplement de l'élection de Modi, mais c'est un processus qui se fait depuis les 20 dernières années. Et c'est pourquoi on accuse le Congrès indien de prendre pour acquis les votes des égaux musulmans sans vraiment changer leur réalité et leur sort. Je n'ai pas de réponse à vous dire, monsieur, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'avenir, mais c'est clair qu'il y a la crainte principale de voir Modi. On ne doute pas de ses capacités à créer de la croissance économique. Mais on a le premier mandat BJP de 98 à 2004, qui a fini justement avec les pogroms pendant ce moment-là dont vous parlez. Et on veut éviter l'erreur. Cette fois-ci, par contre, le BJP veut se faire réélire. Alors, ils ne vont peut-être pas faire les erreurs qu'ils ont faites de 98 à 2004. Ils ont perdu leurs élections parce que les Indiens disaient c'est des bread and butter issues qu'on peut entendre parler et n'ont pas de code civil unique. Je veux dire, c'est clair qu'en ce moment, le BJP, j'ai l'impression qu'il fait des efforts pour éviter justement d'avoir des frictions entre la majorité musulmane, la minorité musulmane et la majorité hindoue. Et je vous donne simplement les trois premières semaines de gouvernance du gouvernement Modi, que très différent des trois premières du BJP en 98, où on commençait à se lancer des missiles nucléaires. Ça, c'était le début de la gouvernance du BJP. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire des fleurs au Pakistan. Alors, c'est clair que vous avez une attitude très différente du gouvernement avec probablement les mêmes personnes qui étaient là en 2004. Ils ont peut-être eu leur leçon en 2004. Alors, moi, j'aurais tendance à dire dans le court terme, on peut mettre sous couvert les frictions et les mesures.
Mathieu, je voulais peut-être deux petits commentaires très rapides. Moi, j'ai l'impression, d'une part, ce ne sont pas que les musulmans radicaux qui n'oublient pas ce qui s'est passé en 2002. C'est l'ensemble de la population musulmane qui a été profondément meurtrie. Et d'autre part, Modi, comme disait Serge, a une plateforme essentiellement néolibérale pour le moment. Il a une histoire aussi, il va subir des pressions de partis fondamentalistes de droite.
et qui vont mettre la pression par rapport au code civil unique, par rapport à la question du Cachemire et également par rapport à la question de la reconstruction du temple de Rama. Alors, c'est à voir dans les quatre prochaines années comment Modi va gérer ses pressions de partis d'extrême droite et s'il va remplir également ses promesses économiques qui l'ont fait élire.
Monsieur, en avant, vous avez une question. Ouais. Avancez-vous. En fait, avancez-vous tous et toutes vers le micro, comme ça vous allez faire une jolie fille.
Jean-François Minardi, je suis étudiant en doctorat ici à l'UQAM. Et j'ai une question pour M. Granger. Vous avez parlé de, si j'ai bien compris dans la présentation, vous avez parlé de la création des panchayats pour améliorer les programmes de lutte contre la pauvreté. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus, comment les panchayats permettent d'améliorer le processus? Est-ce que vous pouvez parler peut-être un petit peu, il y a un projet de transfert direct à la population des programmes de lutte contre la pauvreté. C'est quoi le lien avec les panchayats? Est-ce que l'idée c'est de faire ça directement dans les panchayats pour passer les États et les autres structures qui sont source de corruption et de... Voilà. Donc un peu, pour élaborer un petit peu là-dessus. Merci.
Un panchayat, c'est un, si on regarde l'historique, c'est le début dans le fond, de la gouvernance villageoise il y a très très longtemps, où les sages du village se réunissaient et ils faisaient la gouvernance. On a réactivé ça en 1993, on a constitutionnalisé le tout parce que c'est la théorie de la décentralisation qu'on veut appliquer. C'est-à-dire que les budgets loués du gouvernement fédéral, on peut passer par-dessus les têtes de certains. À des gouvernements pour être sûr que les bénéficiaires puissent avoir les enveloppes budgétaires et eux-mêmes gérer, que ce soit la voirie, les services sociaux, l'éducation, la garderie, l'hygiène, ces choses-là, pour éviter justement qu'il y ait de la corruption. Alors, il faut comprendre que c'est une lutte aussi à la corruption que fait le gouvernement indien. Ce n'est pas le seul. Le gouvernement chinois aussi a fait la même chose en 1993. Je donne un exemple, 90% des villages n'avaient pas de pratique comptable. Là, c'est de voir dans les chiffres, par exemple. Alors, tu imposes en France certaines règles. Qu'a fait le gouvernement indien, c'est qu'il a forcé aussi au gouvernement d'État fédéré d'avoir ce qu'on appelle une commission statutaire sur le financement, c'est-à-dire que chaque année, on a l'obligation de donner une part de nos revenus aux gouvernements locaux. C'est constitutionnalisé, c'est pour ça qu'on le fait dans les communes. Alors, je vous donne un exemple. Le fédéral, lui, reçoit environ 70% des revenus. Il est obligé par la Constitution, par la commission des finances, de redistribuer 28 à 29% de ses revenus dans les États fédérés. Alors, le gouvernement fédéral, ce qu'il a fait, il dit on va faire des commissions statutaires dans chacune des États fédérés qui, eux, vont recommander le pourcentage des revenus tirés par les États fédérés et qu'ils doivent, elles, à leur tour, le transmettre dans les gouvernements locaux. On a fait ça, ça a commencé en 1993, le début de cette réforme-là, et peut-être elle est finie en 2010. Écoutez, essayez de comprendre, c'est long le processus, puis des États à vitesse variable, puis des fois, il y a des gouvernements mis en tutelle, bref, ça va tout le temps à la même vitesse. Mais du moins, le processus de décentralisation est terminé depuis environ 5 ans, et on espère simplement que les usufruits de cette réforme, surtout les bénéficiaires, vont avoir une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics. Et c'est surtout ça, l'idée derrière ça, parce que c'est à la mode dans les années 90, comme de quoi que plus près d'enveloppe budgétaire et des bénéficiaires, plus une implication, puis chacun veut absolument qu'il y ait une maximisation des ressources affectées, parce que c'est eux les bénéficiaires. Alors, pour ça qu'on met des quotas aussi, là, parce qu'on sait que les femmes ont des problèmes d'empowerment en Inde, j'ai besoin de vous le dire, ça, tout le monde le sait. Alors, si on met un tiers sur le système de panchayat et du gouvernement villageois, okay, et après ça, vous greffez des personnes défavorisées, ça peut avoir un avantage. Dans certains États, ça a très bien fonctionné, tandis que dans d'autres, ça va renforcer l'élite locale, qui, elle, contrôle encore le gouvernement local. On appelle ça du « elite capture ». Et c'est un problème en Inde. Les autres camps sont parfois un ascendant sur le reste du village, et c'est une façon de rendre, dans le fond, les chiffres plus transparents vers tous les bénéficiaires pour limiter justement la corruption, ce qu'on pourrait appeler le « elite capture » des ressources et des élites.
Merci beaucoup, Serge. Madame, question?
Oui, Serge Chevalier, notamment. Comment est-ce qu'il y a une croissance de la violence contre les femmes en Inde? Et si oui ou sinon, comment expliquez-vous le phénomène?
Est-ce que je peux enchaîner sur ma question à la
fin? Allez-y. Il nous reste à peu près 5 minutes. Il y a des gens qui commencent à partir, qui ont sûrement des échéances.
On peut passer 5 minutes sur le sujet.
Moi, ça me fait plaisir de rester.
Alors, oui, Fouminda, je suis géographe, je suis spécialiste de l'Inde et j'arrive tout juste de France, d'où mon regret d'avoir raté votre première présentation. Donc moi je m'adresse à vous sur le paradoxe que vous avez souligné entre l'Inde moderne et la condition qui est faite aux femmes. Alors évidemment j'abandonne votre sens, mais je souligne à mon tour que vous avez vous-même d'abord énoncé une bribe de compréhension en disant qu'en parlant de l'Inde, enfin c'est que la India, donc l'Inde, la laïcité en Inde et cette vision qui intègre donc tout le droit coutumier et de ce fait ce que moi j'appelle la trinité de la tutelle, parce que ça met dans le droit coutumier de fait la femme sous l'autorité directe d'abord de son père, ensuite de son mari et éventuellement de son fils, voire son beau-fils. Donc en ce sens je suis d'accord avec vous, mais l'Inde moderne d'aujourd'hui ne s'est pas construite sans les femmes. Et on a effectivement deux ouvrages, enfin je ne suis pas là pour faire de la publicité, deux ouvrages sublimes qui le soulignent, notamment Le génie de l'Inde. Et le deuxième, alors si je m'en souviens bien, c'est Les femmes actrices du développement en Inde, où on montre qu'effectivement que les femmes aujourd'hui en Inde sont à la tête d'entreprises, comme l'a rappelé M. Kumar, SSI, donc informatique, mais aussi de banques, la ICC, etc. Et de notre côté, évidemment, l'Inde est à ce qu'on appelle un sex ratio faible, il manque 40 millions de femmes, et on est évidemment tous au courant de ce qui s'est passé, mais qui n'est pas nouveau en réalité. On en parle juste un peu plus, et là je fais le lien avec ce que vous appelez Shining India, où moi je soulignerai davantage l'ancrage sur la scène politique internationale de l'Inde, lorsque l'Inde était à la tête du non-alignement, qui a donc donné ce poids politique, mais aussi l'éveil de la société civile, notamment au travers des problématiques de femmes, où aujourd'hui ce sont les femmes et les hommes main dans la main qui se battent contre toutes ces discriminations faites sur l'Inde. Donc,
est-ce que vous pouvez poser votre question, parce que là, je vous amène bien à exposer.
Donc ma question rejoint complètement ce qui a été dit par madame. Vous avez plutôt souligné le paradoxe entre l'Inde et la modernité. Est-ce qu'au final, le réveil de la société, la mise en lumière de la problématique des femmes en Inde, aujourd'hui, n'a pas induit le réveil de la société civile et donc la jonction entre le Shining India et l'Inde moderne?
Bon, le Shining India, c'est un slogan. Il ne faut pas s'imaginer qu'elle brille tant que ça, l'Inde, tout d'abord. Mais je crois qu'elle vous soumet une chose importante, c'est que est-ce qu'il y a plus de violence ou moins de violence là-bas? Honnêtement, je ne veux pas vous dire. Par contre, il y a une différence fondamentale, c'est que la femme est passée de l'aspect privé à l'aspect public dans la transition de la croissance économique. Et là, c'est une préoccupation grave des jeunes femmes. Là. Vous êtes une jeune indienne de 22 ans, vous venez de finir votre bac, vous venez d'aller travailler en paix pour faire violer sur le chemin. Là, il faut bien comprendre que là, l'Inde doit garantir la sécurité publique de la femme. Ce qui, avant, n'était pas une préoccupation parce qu'il y avait une insécurité privée, puis ça importe, je veux dire, c'est tout le monde, c'est la meilleure carte, on ne peut pas se le cacher. Donc, dans le fond, la violence privée ancienne, qui est toujours là encore, mais il y a encore la violence privée. Mais là, la différence, c'est comment fait-on pour arriver à faire une sécurité publique de la femme qui devient publique maintenant. Alors là, c'est un défi extraordinaire que le gouvernement doit parce que c'est une situation relativement récente. Il faut bien comprendre le taux d'activité des femmes en termes de population active en Inde. Si on compare avec la Chine, parce que si on aime ça comparer avec la Chine, ben, il y a deux fois moins de femmes indiennes sur le marché du travail public qu'en Chine. Je viens de vous dire que c'est très différent comme société. Et en Chine, il y a eu un processus révolutionnaire. Ils sont arrivés au pouvoir, les communistes, demain matin, tout de suite, la femme devait aller à l'école, la femme devait apprendre à lire, la femme devenait un ouvrier agricole et des bras de travail de construction. C'est très différent de la révolution chinoise et de la révolution interne. Donc, en ce moment, je crois que l'Inde est encore aux prises avec cette transformation de l'aspect privé au public. Et cette transformation, ce n'est pas fait dans le processus révolutionnaire, contrairement à la Chine. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et j'avoue qu'il y a beaucoup plus de... Les mentalités sont peut-être moins prêtes qu'en Chine, aussi pour cela. Mais il faut comprendre qu'il y a un processus historique que l'Inde a suivi. Et c'était plutôt un idéal, comme on dit, de décolonisation plutôt que de transformation sociale qui a amené l'indépendance. Alors, il y a beaucoup de travail pédagogique à faire, mais aussi de sécurisation publique de la ferme, je pense, sont en transition en train de faire pour ce qu'on entend.
J'aimerais peut-être juste entendre là-dessus Mathieu Boisvert, parce qu'il y a aussi un fort élément culturel dans le rapport homme-femme en Inde, dans la société, dans la religion, tout ça.
Oui, c'est pas nécessairement sur la sphère culturelle que j'allais enchaîner. Là. Moi, je rejoins Serge, je ne veux pas minimiser du tout ce qu'il a dit, mais il faut comprendre aussi que depuis une quinzaine d'années, en Inde, une femme qui se fait violer, elle va parler. Elle va parler. Okay? Dans nos sociétés, c'est peut-être encore très tabou, ces choses-là. En Inde, il y a des mouvements, des grassroots movements, des mouvements coopératifs organisés par des femmes, pour des femmes et par des femmes qui sont mis sur pied. Il y a encore énormément à changer, à transformer en Inde. Mais il y a tout un mouvement d'empowerment qui est présent. Et ça, c'est important. Je voudrais aussi rappeler que l'Inde rentre en contact avec l'Occident. Il y a tout le colonialisme et tout. L'Inde est une nation qui est toute jeune encore, 1947, qui se modernise, et est encore plusieurs régions rurales qui sont entre la modernité et la ruralité. Là. Mais tout ça prend du temps, puis on doit se familiariser avec des nouveaux paradigmes, des nouvelles façons de faire. Il y en a qui se rappellent au Québec quand est-ce que la femme a eu le droit de vote?
40
C'est une question rhétorique.
C'est ça. Mais c'est un sujet passionnant.
Ah oui, il y a, je veux pas.
C'était un des sujets de reportage. Moi, j'ai constaté quand même une grande division aussi. Oui. Il y a un livre absolument fascinant qui a été écrit par une jeune indienne qui s'appelle Ira Trivedi, qui s'appelle India in Love, où elle décrit les paradoxes, en fait, à la fois des jeunes Indiens qui ont des relations sexuelles de plus en plus précoces, ont des comportements de plus en plus égalitaires, mais en même temps, la pression de la société, la pression de la culture reste très, très forte. Et tout ça crée des clashs, des chocs, qui font aussi en sorte que ça peut expliquer l'augmentation de certains viols, les viols collectifs, les gens qui arrivent de milieux très pauvres, qui arrivent en ville, qui voient des affiches de jeunes femmes beaucoup moins habillé, mettons, qu'il y a 20 ans auparavant. Et tout ça crée une sorte de désemparement aussi chez les jeunes hommes. Bref, en tout cas, c'est super intéressant.
La sexualité est extrêmement taboue en Inde.
Oui. Et aucune éducation sexuelle, d'ailleurs, elle plaide beaucoup en faveur d'éducation sexuelle.
Une chose, je vais ajouter. Oui, Roger. 91, quand l'économie, il y avait une ouverture, avant ça, il y avait seulement 2-3 chaînes de télé en Inde. Ça existait. Radio, télé, c'était la seule façon de communiquer les médias. Actuellement, si vous savez combien de chaînes de télé qui existent en Inde, je ne sais pas.
Mille.
Donc, on ne sait pas si les chiffres ont changé ou c'est la visibilité. Est-ce qu'on est plus conscient qu'il y a des reportages de ces chiffres? On ne sait pas si le nombre a changé aussi, je ne suis pas sûr.
On a dépassé leur limite. Moi, je ne décide rien. Dans tout ça, est-ce que vous voulez qu'on continue ou on s'arrête là?
S'il y a des questions,
ouais. S'il y a une révolution, on va suivre.
Hein? L'empowerment des femmes en Inde, est-ce qu'il est vu comme étant un mouvement de grassroots ou un mouvement qui est issu d'influence extérieure à l'Inde? Ça peut être l'influence de la Chine comme l'influence de l'Amérique.
Bon, je veux répondre.
C'est-à-dire que, et là, ça me pose la question que madame a posée sur la création de la société civile, et là, ça revient avec la réponse, la thèse à la fin de mon exposé, c'est que la façon que l'Inde fait de l'empowerment, surtout par rapport aux femmes, il y a une société civile très riche, contrairement à la Chine, très différente. Eh bien, est-ce que ce modèle-là peut-être si réussi en fait? C'est là que ça devient important parce que c'est un modèle qui est exportable pour tous les pays en voie de développement, que ce soit l'Afrique ou autre. Qui peut-être les mêmes problématiques vont se poser entre avoir une population active mâle qui devient une population active, dans le fond, asexuée. Parce que là, les femmes deviennent dans la tête. Et c'est là que la vraie question se pose. Est-ce qu'ils vont réussir cette guerre-là? Si ils réussissent à sortir les femmes de la pauvreté et sécuriser, c'est un modèle politique. Puis on sait très bien que le développement, c'était grassroots. Et là, mettre en connexion, que ce soit du microcrédit
offert aux femmes, parce que ça fait 30 ans qu'ils font du micro-crédit. C'est qui les clients? C'est quoi, 70%? Ce sont des femmes. Alors, vous comprenez qu'il y a un processus de ressources, pas simplement au point de vue de l'inclusion politique, mais même aussi l'accès au capital. Et là, c'est une médecine sud-asiatique qu'on tente d'appliquer pour sortir l'Inde du sous-développement, pas simplement l'Inde, le Bangladesh aussi, qui réussissent relativement bien en passant, parce que la pauvreté extrême au Bangladesh, elle recule. Il ne faut pas penser que ça va si mal que ça. La pauvreté abjecte et extrême recule en Asie du Sud à une vitesse, peut-être pas aussi vite que la Chine, mais aussi, part de plus loin aussi. Hein. Les Chinois vont à l'école de façon obligatoire depuis 1950, les Indiens depuis 2010.
Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question? Tout le monde est d'accord ou s'il y a des gens qui doivent partir? OK. Monsieur Alice.
André Carpagnon. Dans le dernier numéro de Courrier international, on parlait d'hypothèse d'une troisième guerre mondiale. Vous savez qu'il y a beaucoup de points chauds actuellement dans le monde. Il y a l'Ukraine, le Proche-Orient, etc. Il y en a tout. Et un auteur ou deux, un c'est certain, je ne me souviens pas exactement, un auteur disait le point de. Ça prend un déclencheur après une guerre mondiale, n'est-ce pas? Là où ça pourrait déclencher, c'est entre le Pakistan et l'Inde. Plus que Israël, puis bon.
Moi, ça m'écoute moins.
Sans pays,
quatrième. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la relation entre l'Inde et la Chine. Je m'excuse, ça inquiète ces relations sino-indiennes. Et j'espère que les Chinois et les Indiens vont avoir des relations beaucoup plus cordiales aujourd'hui. Parce que point de friction, vous avez dit 20 ans, là vous allez avoir 3 milliards hein, d'Indiens et Chinois sur la planète. Et ça va être aussi l'apogée de la population active. Donc la course aux ressources, que ce soit du pétrole, des minerais, etc., va atteindre son apogée vers 2027 environ. Alors moi j'espère que les relations sino-indiennes vont se réchauffer avant d'arriver à l'apogée de cette compétition globale. Parce que s'ils s'entendent bien les Chinois et les Indiens, ça va être tant mieux pour eux d'avoir les prix bas pour pouvoir continuer à pomper le monde de ressources dont ils ont besoin. Parce qu'il faut mettre quand même 1 milliard d'urbains dans les 30 prochaines années en Inde. Ça va en prendre du fer et du béton et du pétrole. Alors, ça, récemment, si moi je vois une guerre mondiale, ça va dépendre des relations sino-indiennes. Parce que si ces deux puissances n'arrivent pas à s'entendre, imaginez l'effet que ça peut avoir. Pas simplement entre eux, au point de vue frontalier, puis là, oui, le Pakistan va embarquer dans le jeu. J'en suis entièrement d'accord. Mais c'était qu'il faut penser qu'à l'échelle globale, on ne peut pas se payer un conflit sino-indien. C'est tout simple que ça. Fait que pour ça que moi, j'espère qu'ils vont, quand je vous ai dit que l'Inde, il faut qu'elle devienne un G3, il faut qu'il y ait un G3 qui se crée, il faut qu'il y ait une synergie, cohabitation des modèles de développement entre l'Inde, les États-Unis et la Chine, vers les 2027 en guillemets, il faut d'avoir une date, parce que c'est clair qu'à ce moment-là, on va être à l'apogée, dans le fond, de la population active à l'échelle globale de ce côté-là. Alors, c'est clair que d'après moi, je ne veux pas gager sur la futurologie, mais je gage sur l'amélioration des relations sino-indiennes pour éviter une problématique de ce genre.
Rajesh?
Je suis d'accord avec ça. Mais je vais ajouter la question de femmes. L'année passée, on avait organisé une table ronde. Un des sujets était le rôle des femmes en affaires. Et la directrice du forum, ce qui s'appelle Will Women in Leadership en Inde, elle a été invitée. Donc, elle a donné des données en affaires en Inde et aux États-Unis. Haute direction, vice-président, PDG, combien de personnes en Inde, et c'est pas évident lesquelles. Elle a dit il y a deux pays, lesquelles données sont pour quel pays. Donc, il y a une direction ici, une haute direction, il y a des coachs qui est le PDG de ICIC Bank, elle sera à Ottawa la semaine prochaine. Et Biocon, le PDG, il y a toutes sortes de PDG en Inde. Donc il y a comme un conflit, ou il y a peut-être comme la diversité des opinions. Donc, mais elles ne veulent pas que d'autres femmes le disent, qu'elle a dit ça clairement. Ne nous dit pas comment il faut réagir si on aime. On est capable de faire nous-mêmes. Donc, ce sont des deux chiffres.
Je voudrais ajouter quelque chose à la question de monsieur, parce que je ne pense pas qu'il y a un danger entre le Pakistan et l'Inde pour la guerre, parce que, selon moi, je ne suis pas politicien, j'étais chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique. Et là, je pense que le Pakistan a signé le pacte de défense avec Chine. Alors, s'il y a agression avec le Pakistan, ça veut dire que Chine va intervenir. Et ça va donner un conflit global.
Oui, là on est mal barré, vous avez raison. Ben, merci infiniment d'avoir écouté et participé à cette conférence. Merci beaucoup à nos trois invités, donc Mathieu Boisvert, Serge Granger et Rajesh Kumar Thiagi. Trois points de vue très différents, très complémentaires, très intéressants. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est moins niaiseux qu'avant, on en sait plus. La mauvaise nouvelle, c'est que plus on en sait, plus on a le goût d'en savoir et moins on a l'impression de comprendre. Mais donc, autant de raisons pour participer au reste de cette semaine de l'Inde qui se déroule ici à l'UQAM. Les programmes sont là. Et ben pour ma part, juste une petite promotion peut-être. Il y a tous les reportages que j'ai réalisés en Inde en mars dernier sont encore disponibles sur le site web de Radio-Canada et de l'émission Des Hôtels le dimanche. Vous entendrez entre autres la voix de Serge Granger qui avait participé à une heure complète d'émission en ma compagnie et celle de Michel Des Hôtels. On a notamment abordé toutes ces questions-là, l'économie, la politique, les femmes, etc. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Merci. Au revoir.